Bonjour, petite leçon de français. Alors, on n'y dit plus regarder les informations, on dit prendre des nouvelles de Sarkozy. Voilà, merci, au revoir.
Je vous téléphone parce que j'ai entendu lundi, sur RMC, les grandes gueules, j'entendais, vous savez, c'est les personnes qui sont là, c'est vraiment des bêtes enragées contre les pauvres. Vous savez, il y avait deux personnes, il y en avait une qui est chef d'entreprise, une femme, qui méprise les gens comme tout. Et il y en avait un autre monsieur, c'était pareil. Par contre, il y avait un prêtre qui était parmi là, il n'était pas d'accord avec ces deux-là. Et ils étaient en train de dire comme ça que Copé ne gagnait pas assez ceci, cela. Je viens de lire là le sur Marianne cette semaine. Eh bien, il est photographe qui est là. Il gagne 7 100 € par mois. Eh bien, je trouve que c'est cher payé. Mais dis donc, pourquoi toujours critiquer les pauvres? Mais enfin, la terre n'est pas à eux, à tous ces gens-là. Écoutez, je ne sais pas pour dire, mais les grandes gueules de RMC, ce sont des bêtes sauvages. Vraiment des bêtes sauvages. Merci.
Bonjour à Mermet et à tout le monde. Je suis enseignante depuis un paquet d'années et comme des milliers de collègues, j'ai eu la chance de recevoir une magnifique brochure avec couverture papier glacé de 30 pages de mon président. Je vais vous lire un premier extrait. Il faut récompenser le mérite, sanctionner la faute, cultiver l'admiration de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est vrai, de ce qui est profond, et la détestation de ce qui est mal, de ce qui est injuste, de ce qui est laid, de ce qui est petit, de ce qui est mensonger, de ce qui est superficiel, de ce qui est médiocre. Merci, monsieur Nicolas, pour ce questionnement philosophique auquel nous n'avions pas pensé. Le seul problème est mes certitudes sur ce qui est bien, mal, beau, laid, grand, petit, juste, injuste, profond, médiocre. On n'a visiblement pas tous les mêmes réponses. Pour finir, un dernier court extrait qui est justement la conclusion de cette nouvelle Bible à l'usage des éducateurs. Chacun d'entre vous est conscient que face à la dureté des rapports sociaux, à l'angoisse devant un avenir de plus en plus vécu comme une menace, le monde a besoin d'une nouvelle renaissance. Le temps de la refondation est venu, c'est à cette refondation que je vous invite. Nous la conduirons ensemble, nous avons déjà trop tardé. Alors là vraiment, merci à nouveau monsieur Nicolas, nous allons enfin sortir de l'obscurantisme grâce à vous, notre nouveau gourou. Une nouvelle renaissance intellectuelle, je le cite, s'annonce avec lui. Je vais enfin trouver un sens à ma fonction. Mais surtout, ma dernière question, c'est quand même tout ce vocabulaire utilisé. Nouvelle renaissance, refondation, ces sanctions, la détestation. Serait-il pas un vocabulaire emprunté à un certain discours de scientologie ou autre secte? Je me pose la question, vraiment, voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et je vous remercie pour tout ce bonheur à vous écouter. Au revoir.
Bonjour, Café Repère de Grenoble. Jeudi 4 octobre à 18h30, réunion des amis de la Bastille-Jussuy au Café Repère à la Bonne Heure. Donc Alsace-Lorraine, 65 avenue, 0416-46-30-62 si vous voulez avoir plus de renseignements. J'espère qu'on sera nombreux et je vous attends 18h30, Café-Restaurant La Bonne Heure. A bientôt, bye.
Allô, Daniel Mermet, là, oui, je suis votre émission, là, avec beaucoup d'intérêt tous les jours, mais aujourd'hui, au sujet de l'affaire des vins à Narbonne, là, vous avez commis une petite erreur qui semble quand même intéressante, là. Vous avez dit, les soldats du 17e ont refusé de manifester, etc., ils ont mis la crosse en l'air, mais non sans avoir auparavant tiré sur la foule. Et bien ça, c'est absolument faux. Et les soldats qui ont tiré sur la foule à Narbonne, c'était les soldats du 139e de ligne. Et le 17e d'infanterie se trouvait à ce moment-là à Agde. Et quand ils ont appris la nouvelle, ils sont venus à pied, ils ont rejoint Béziers, et ce sont eux qui se sont révoltés et qui ont été punis ensuite et envoyés en Tunisie. Alors, il ne faut pas mettre sur le dos des soldats du 17e la fusillade de Narbonne. C'était le 139e de ligne. Voilà, c'est Francis à Toulouse. Merci. Au revoir, Daniel.
Silence dans la vallée est un documentaire de Marcel Tria. Marcel Tria, le Daniel Mermet de France Télévisions. Le réalisateur analyse les ravages de la mondialisation, du capitalisme financier, La résignation du monde ouvrier. Jeudi 4 octobre sur France 2 à 22h55. France 2 rediffuse les précédents films de Marcel Tria, 300 jours de colère, les prolos et femmes précaires, le jeudi 4 et 11 octobre en soirée. Enregistrement indispensable. C'est Régis de Nîmes.
Et ben voilà, c'est annoncé, et c'est ce dont on va causer aujourd'hui. Le film de Marcel Tria, que vous pourrez voir en effet demain soir sur France 2 à 23h. Silence dans la vallée. On va passer cette heure ensemble. Je vais revenir sur ce qu'a dit cet auditeur sur mon erreur, mais alors grossière erreur en effet. Les soldats du 17e chantés, célébrés par Monteus, non. Pas tiré sur la foule, c'est bien le 139e régiment de ligne qui s'est rendu coupable de ces mitraillages, mais les gars du 17e n'étaient pas là, ils ont mis la crosse en l'air, etc. Merci de ces précisions. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est Silence dans la vallée. Un film de Marcel Tria qui, comme cet auditeur vient de le dire, raconte la fermeture d'une usine de forge à Nouzonville dans les Ardennes et qui dépeint comment, une fois de plus, comment la mondialisation libérale, comment la financiarisation de l'économie détruit une société. Mais ça se reproduit partout, ça s'est reproduit un peu partout à travers le pays, évidemment, ça n'est pas sans conséquence et ça ne sera pas sans conséquence. On va retrouver aussi Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Pourquoi donc ? Parce que ils ont contribué à ce film, au film de Marcel Tria, notamment puisqu'ils sont, vous en souvenez peut-être, j'espère, des sociologues spécialisés dans la haute bourgeoisie, ils ont aidé Marcel Tria à filmer le côté des patrons, le côté des gros, comme on disait dans les années 30. Voilà, c'est notre sujet. Je pense que effectivement, les trois films de Tria qui seront visibles sur la 2 la semaine prochaine, 300 jours de colère, les prolos et les femmes précaires, constituent une œuvre considérable sur les réalités profondes de notre pays. Auparavant, et d'autres pays d'ailleurs, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour les amis de Daniel Mermet de la Bassie, j'y suis. C'est Serge de Limoges qui vous envoie ce petit message pour vous rappeler que mercredi 3 octobre à partir de 18h30, on se retrouve au repère des amis de la Bassie, j'y suis, le Woodstock Boogie Bar que tout le monde connaît, avenue Montjovi maintenant. Salut, venez nombreux.
Bonjour, je suis Pascal, je suis vigneron dans l'Aude et je viens d'écouter les deux émissions sur la viticulture. Et je voulais réagir à ces émissions d'abord pour dire que globalement c'est très intéressant, comme l'ensemble de vos émissions. Mais quand même, qu'il faut quand même remettre quelque chose au point, à mon avis, c'est un peu détruire un peu la mythologie autour de ce midi rouge viticole. C'est-à-dire que dans les années 80, la grande majorité des vignerons, ils ont rejoint la SNSEA et qu'ils n'ont pas eu beaucoup de réflexion sur l'avenir à cette époque-là. Et que eux-mêmes sont rentrés dans la mondialisation, exportation à tout va, et monoculture. Rappelez que la vigne, c'est 52% des pesticides pour à peine 3% de la surface agricole utilisée. C'est énorme. C'est-à-dire que le vin qui se produit est loin d'être naturel, que c'est la monoculture, que les sols sont érodés, qu'il y a certains sols de viticulture qui ont moins de 1% de matière organique, et qu'on considère actuellement comme mort, proche de la désertification. J'ai un copain viticulteur dans le Verbagnous qui m'a dit un jour, on fait de la culture hors sol, et on en est à peu près là, quoi. Donc, il faut peut-être remettre les choses, les pendules à l'heure, dire que tous les viticulteurs sont pas à la même enseigne. Il y a quelques viticulteurs qui n'ont pas des immenses propriétés, qui n'ont pas de 4x4, qui travaillent bien, qui travaillent des fois même en bio. Moi, je dis bravo à ces gens-là. Et puis, revenir sur l'esprit de résistance.
salue les petits loups, tout le monde. C'est la Françoise qui appelle pour rappeler le café repère de Nogent-sur-Marne. Vendredi 5 à 20h30 au Bédonia, 61 bis rue des Héros Nogentais. Voilà, on vous attend nombreux. Salut tout le monde.
Bonjour à tous les AMG, rendez-vous comme d'habitude au repère de là-bas si j'y suis. Le dimanche 7 à 17h à la Motte au Cochon, c'est donc le repère qui se situe à 30 minutes de Nantes sur la route de Pornic, à Saint-Hilaire-de-Chaléon pour être précis. Voilà, merci Mermé pour tes émissions et j'espère que vous serez nombreux donc à 17h en ce dimanche 7 à la Motte au Cochon. Bonne route à tous.
Les 83 policiers gardes du corps, qui gagnent déjà une prime de 1 500 € par mois pour garder le corps de Nicolas Sarkozy, voudraient gagner plus, donc travailler plus. Et c'est là où le bât blesse. Comment faire? Car si on divise Nicolas Sarkozy en 83, ça fait déjà des toutes petites parts. On ne sait déjà pas comment ils s'organisent. Peut-être y en a un qui garde le pied gauche, un autre une oreille droite. Sans compter que les deux ou trois qui gardaient les poignées d'amour auraient dû être remis à la circulation, depuis que la magie de Photoshop les a fait disparaître. Voilà un problème concret. Comment travailler plus? Que garder de plus? Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Qu'est-ce que c'est que vous avez mis là?
Ça, c'est des acides. C'est des acides hautement corrosifs, c'est ce qui nous sert à traiter les pièces ici. Donc ça, c'est des dilutions, ça doit être des dilutions à 1 pour 1000, je crois, à peu près. Donc, bah... Là, vous avez de quoi, si vous diluez ça, vous avez quoi faire l'équivalent de 1000 litres de produits actifs.
D'accord.
Donc maintenant, s'il charge, nous, on a de quoi se défendre.
C'est pas un peu dangereux, non?
C'est fait pour être dangereux. Mais après tout, c'est pas nous qui avons cherché, qui avons engagé les hostilités. Hein. Ouais. Ce matin, c'est pas nous qui attendait les autres. Hein. On nous a attendus, on commence à regrouper des forces autour de nous. On se défendra ici, c'est notre usine, on est chez nous. Hein. Alors, on a préparé les bacs avec les pièces. S'il faut canarder, bon, canardera. Hein. On rendra les coups. Hein. On est des métallos, on n'est pas des dactylos. Hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Marcel Tria, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Silence dans la vallée.
Flight number 2, arriving from...
Vous n'avez pas peur un peu que ça dégénère et que vous faire mal voir par la population?
La population est solidaire puisque des populations, elles souffrent. Dans les Ardennes, elles souffrent. Les gens qui nous soutiennent, ils souffrent. Comme nous, leurs enfants, presque tout le monde a des familles. Dans la famille, il y a quelqu'un qui est touché par une charrette, a été touché par une charrette. Parce que les charrettes se sont succédées par ici. Ça a été des plans sociaux effroyables. Et presque tout le monde maintenant connaît quelqu'un qui est touché par la précarité. Nous, on vit, c'est 33% de gens qui vivent dans la précarité. C'est 22% de chômeurs aussi au chiffre officiel, des chômeurs qui maintenant ne peuvent pas être solidaires à nos envies.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités?
Mais on attend nos revendications qui sont celles depuis le début, qu'on nous laisse un ballon d'oxygène et 30 000 euros, c'est pas pour faire fortune, hein, c'est simplement pour qu'on ait restitué un bout de ce qu'on nous a pris, que certains aient la note de leur incompétence et de leur manque de clairvoyance qui ont été le leur. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne un ballon d'oxygène pour souffler, pour nous permettre de voir... Avoir un peu de temps pour se retourner, pour l'avenir, pour nos gosses, parce qu'on a des échéances plus qui tombent, ben, on n'a plus de travail, quoi. Alors, la première revendication, c'est celle-là. Mais derrière, on voudra aussi que tous ces gens-là, ils se bougent aussi pour les reclassements, parce que ça va être dramatique, leur classement. Dramatique.
Il y a un papier, là, dans Télérama, sur ce film, et le titre du papier, c'est « Quelle était noire, ma vallée ?» C'est pas mal trouvé parce que ça fait allusion au roman de Richard Laveline qui s'appelait « Quelle était verte, ma vallée ?» Hein? Et là, on a vraiment l'impression que c'est la fin de cette aventure-là. Hein? C'est la fin d'une histoire. Marcel Tria, bonjour, le réalisateur bonjour. Du film « Silence dans la vallée ». Et on retrouve nos amis Monique et Michel Pinson-Charlot qui sont dans cette histoire-là. C'est-à-dire que pour dépeindre cet épisode du monde ouvrier, Marcel Tria a fait appel à nos deux sociologues. Pourquoi donc, Marcel ?
Oui, c'est même l'inverse. Ce sont eux qui m'ont amené à Nous en ville. Après avoir fait les trois premiers films, 300 jours de colère, Les prolos, Femmes précaires, avec Jean Bigot, mon producteur, on s'est dit qu'on avait un peu envie d'aller voir de l'autre côté, parce que ces trois premiers étaient faits du point de vue des ouvriers, des salariés, et on avait envie d'aller voir ce qui se passait du point de vue des patrons. Des destins des patrons, il y a des êtres derrière, il y a des personnes, et ça nous intéressait d'aller voir de ce côté-là. Donc on a eu envie de connaître les Pinson, parce qu'on adorait leur livre, on avait envie de parler avec eux. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, ils étaient en train de travailler sur Nous en ville, parce que Michel, ses parents sont originaires de Nous en ville, et il avait écrit un livre il y a 20 ans, Désarroi ouvrier, sur cette classe ouvrière extraordinaire de cette petite ville où on travaille l'acier depuis Henri IV. Et ça commençait déjà à le rincer, hein. Et, donc ils m'ont emmené à Nous en ville. Et là, j'ai découvert un petit bout de France hyper industriel qui, en 20 ans, s'est délité complètement. C'est un peu comme si la bourrasque était passée, sauf que ça n'a pas pris 2 jours, ça a pris 20 ans, quoi.
Comment est-il possible d'avoir fait autant de films, Marcel, sans être allé de l'autre côté, sans être allé du côté des patrons?
Alors, c'est pas tout à fait juste, parce que dans les autres films, étaient impliqués à plusieurs reprises des directeurs d'usine. Mais pas les vrais patrons, quoi. Voilà. Là, il s'agit vraiment des vrais patrons, donc c'est la ville tout entière qui est en cause dans ce film-là, aussi bien les salariés, les patrons, les élus, les cadres, les ingénieurs, etc. Comment ils ont vécu tout ça? Comment ils ont vécu le passage de ce typhon, quoi?
Ça a été facile? Quand vous arrivez, c'est Marcel Tria, quand même, c'est pas un regard tout à fait neutre et neutralisant, on connaît le regard de Tria, quand même. Donc, est-ce qu'ils ont eu, ils sont méfiés, ils se sont dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce rouge dans la vallée, là, qui arrive?
Ils sont un peu méfiés, faut bien dire. D'ailleurs, les Pinson ont essayé de m'introduire un peu brutalement dans le milieu, c'est-à-dire au Rotary Club local.
Oula, Tria au Rotary. Monique, c'était comment?
Oui, alors c'était au mois d'avril de l'année dernière, on était invité à venir présenter notre travail sur les châteaux et les châtelains qui venaient de sortir, et on a parlé du projet que nous avions avec Marcel, et le simple nom de Marcel Tria a sonné rouge, mais rouge vif dans leur esprit, et donc ils ont, ce soir-là, d'abord ils ont refusé que Marcel vienne, mais ça c'était normal, je veux dire, c'était une soirée sur invitation, nous voilà, on voulait imposer pour faire gagner du temps, mais c'était pas un bon boulot de sociologue, là je dois reconnaître l'erreur, et ils ont proposé d'établir un comité de pilotage pour ce film, pour que Marcel ne soit pas tenté de montrer des Ardennes tristes, des Ardennes industrieuses, que ce soit pas trop pessimiste, et que les Ardennes vertes et que les Ardennes de l'avenir, enfin qu'il y a un certain optimisme dans un film qu'il ne pouvait évidemment pas interdire. Et donc lors de cette soirée du Rotary Club avec Michel, nous avons sympathisé avec Monsieur Dury, avec le représentant du MEDEF. Et puis après, Marcel a fait son travail de façon très efficace et très humaine et super.
Alors, je sais pas ce qu'il est devenu, ce comité de suivi, hein. Moi, j'en ai plus entendu parler.
Oui, alors finalement, parce que c'est quand même ça. Bon, y a des superbes images, témoignages bouleversants et toute une mémoire ouvrière. Il y a aussi des gars qui sont encore à l'œuvre. Il y a des scènes magnifiques de cette petite entreprise
qui continue
de bosser avec les gars qui sont accrochés à leur boulot et qui témoignent de cette culture, fierté, dignité, enfin un tas de mots qui disparaissent avec eux d'ailleurs. Mais quand même le plus touchant et le plus passionnant dans le film, c'est effectivement c'est de voir les patrons. Il y a une scène avec un représentant du MEDEF qui est parfaitement éclairante, mais il y a cette famille de patrons qui est là, qui finalement coule avec le navire.
Oui. Alors avec eux, ça a pris beaucoup de temps. Grâce à l'introduction des Pinson, j'ai pu avoir un premier contact. Alors on s'est écrit d'abord. Et puis après, on s'est parlé au téléphone. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, parce que ce qui est bien dans le documentaire, c'est qu'on a du temps. Hein. C'est un travail qui s'échelonne sur un an. Donc on a le temps de faire connaissance avec les gens, ça c'est fondamental. Et un beau jour, je lui ai dit, peut-être qu'on pourrait se voir. Hein. Je parle de François Durie, donc le fils aîné. Et il a accepté de me voir. Et puis peu à peu, une relation de confiance s'est établie. Et d'ailleurs, là, je voudrais bien dire qu'ils ont tort de se méfier de moi, parce que quand je filme les gens, qu'ils soient patrons ouvriers, je les considère pas comme des ennemis. J'ai aucune intention de les caricaturer. J'ai envie de savoir ce qui leur arrive de l'intérieur, ce qu'ils ont vécu. Ce sont des êtres humains que je veux comprendre. Et d'ailleurs, comme tous les gens que je filme, je leur ai dit à l'avance, à tous, ils ont le droit de venir voir au montage ce que je fais de leur image et de leur parole.
Au cours du montage,
si je les instrumentalise pas, si vous voulez. Si, bon, parce que évidemment, quand on monte, on coupe, on raccourcit, on peut déformer les propos. Et donc, certains d'entre eux sont venus au montage. François Durie est venu au montage. François de Saint-Gilles, le président du MEDEF, est venu au montage. Ils ont regardé non seulement leur séquence, mais Durie a vu tout le film et de Saint-Gilles une partie du film. Je trouve que c'est tout à fait naturel. Vous aviez des cadres assez exceptionnels, Tomé Génot.
Des cadres assez exceptionnels, surtout que la majorité était autodidacte. Hein.
Parmi ces grands cadres, là, il y avait des gens qui étaient très très loin de vous, qui étaient plutôt des rouges, comme on dit, et ça vous gênait pas, ça?
Ah non, pas du tout.
Goffard, par exemple?
Ah, absolument pas. Je ne pense pas que lui-même, ça le gênait, je ne crois pas. J'en sais rien, je ne sais pas exactement ce qu'il peut avoir... Évidemment, dans son inconscient ou dans son conscient, mais je ne crois pas que ça le gênait non plus.
Et vous, non? Rien?
Ah non, pas du tout. Alors ça, absolument pas. Évidemment, j'aurais souhaité que ça se finisse autrement, que Tomé Génot continue avec mes fils ou sans mes fils, ou avec un repreneur, c'était ce que j'espérais. Là, j'ai quand même l'impression d'avoir raté quelque chose, de donner le chèque, c'est évident.
Je trouve formidable la famille Durie, donc les patrons, en ce que Tria arrive à les représenter, ses patrons à l'ancienne. Hein, ça rappelle le capitalisme catholique, familial, protecteur, etc. Mais aussi, on voit comment la maman, surtout, enfin la dame, Madame Durie.
Claudie Durie.
Claudie Durie raconte comment elle est coincée presque par son destin. Hein. Il y a une charge qui lui a été donnée, une mission qui lui a été conférée par son mari à sa mort, et elle doit absolument assumer, même si l'entreprise va dans le mur.
Comme dans les grandes familles de la bourgeoisie, on est dans la transmission du patrimoine. Là, il s'agit de la transmission d'un patrimoine industriel. Et patrimoine industriel, c'est non seulement une entreprise, mais c'est les salariés. Or, comme c'est une famille très paternaliste, très humaine, c'est une famille, et ça on le voit bien avec les images de Marcel, une famille qui souffre, qu'on voit souffrir à l'écran.
Tout à fait.
Et ça les honore. Et en plus, c'est très sincère, hein, Michel.
Oui, il faut bien voir que ce ne s'agit pas d'une grande bourgeoisie, mais de patrons de l'industrie, qui sont à la fois propriétaires de l'entreprise et dirigeants de l'entreprise, qui vivent dans la ville elle-même. Le château Durie est à 200 mètres de l'usine. Et en
avenue Jean Jaurès.
Avenue Jean Jaurès. Et en face du château Durie, il y a des maisons ouvrières. Ils se croisent sur les trottoirs quotidiennement. Donc il y a un rapport qui n'est pas un rapport de capitaliste financier qui tire ses ressources de la bourse et qui voit ça de très loin. C'est un rapport qui est aussi un rapport personnel avec le monde ouvrier et qui change quand même considérablement le rapport à l'entreprise, au travail et à l'avenir de l'entreprise.
On sent que c'est pas la même bourgeoisie que celle de Paris, par exemple, du 16e arrondissement, qui est éloignée, qui est plus lointaine.
On ne peut pas dire que ce soit des mondains, par exemple.
C'est ça.
C'est pas tout à fait le genre.
Et ça n'empêche pas les conflits. Hein. Ça a été très dur. Nouzonville a été une ville rouge. Il y a eu des grèves très dures. Ces patrons paternalistes, si vous voulez, ils ont des qualités et des défauts. C'était pas des saints non plus.
Enfin, ça fait quand même un peu drôle de les regretter aujourd'hui.
Ben là. Oui.
Bon, enfin, je parle de votre point de vue, c'est pas le mien, évidemment, je suis objectif.
C'est bien connu. Et ils payaient pas terriblement bien leurs salariés non plus. Oui. Hein. Bon, il y a des forgerons formidables, c'est payé un peu, à peine plus que le SMIC. Mais il y a quand même deux choses très importantes, c'est qu'ils étaient attachés aux entreprises, et d'autre part, ils respectaient leurs salariés. Ils avaient charge d'âme. Voilà. Même si pour les ouvriers c'était parfois des charognes comme ils disent, hein, des patrons exploiteurs, etc. Mais quand même, il y a, on se respecte quoi, mutuellement. Et les patrons, vous les avez connus à l'époque ?
J'ai connu le patron de chez Tomé Kronbach parce que, comme tout enfant d'ouvrier de chez Tomé Kronbach, on avait le droit aux colonies de vacances. Et je suis allé aux colonies de vacances dans les Alpes, à Saint-Gervais, et ensuite à Megève. Et M. Tomé, le patron de l'usine, celui qui avait permis à cette usine de prendre une grande envergure, venait visiter la colonie et venait dire un petit mot aux petits colons que nous étions.
Pourquoi ce déclin, finalement, aujourd'hui ? À qui la faute ?
Alors là, il y a plusieurs raisons. Bon, il y en a une qui est dans le film, c'est on a supprimé la sidérurgie il y a quoi 20 ans, hein, 79, 80, ça fait 26 ans. On fabrique plus ce type d'acier en France. On fabrique des aciers très spéciaux, mais on fabrique plus cet acier courant, disons, dont on a besoin dans toutes ces forges, ces aciéries, etc. Résultat, il faut acheter l'acier sur le marché. D'où des prix spéculatifs. Monsieur de Saint-Gilles en parle très bien pour le zinc, mais c'est vrai aussi pour l'acier. Tout d'un coup, l'acier augmente de 40%. Comment vous faites quand vous êtes une petite PME, pour laquelle les choses sont pas si simples? Bon, tout d'un coup, ils sont pris à la gorge. Les banques veulent plus avancer l'argent et ils sont coincés. Et y a aussi le fait que arrive la mondialisation pendant ces 20 dernières années, et que les donneurs d'ordre, parce que ces gens-là sont des sous-traitants, les donneurs d'ordre leur disent il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir dans... les obligent, en gros, à délocaliser. Ils leur disent pas, comme dit De Saint-Gilles, ils leur disent pas fermez vos usines pour aller en construire ailleurs, mais ils leur disent il faut vous installer à l'Est.
Sinon,
on arrête tout avec vous, on vous fait plus travailler. Voilà. Il y a plein d'usines comme ça qui ont disparu parce que elles n'ont pas voulu ou pas pu se délocaliser à l'est de l'Europe, ou maintenant c'est plus loin, ça peut être en Chine, au Mexique, etc. On peut dire finalement qu'une entreprise comme Tomé Génaud, une belle entreprise comme Tomé Génaud, est un peu sacrifiée sur l'autel de la mondialisation, en gros.
Oui, on peut sans doute le dire, effectivement. On pouvait penser pendant longtemps qu'avec le savoir-faire qu'ils avaient dans l'épaule d'alternateur, ils étaient à l'abri de cela, parce que il y avait des ingénieurs qui avaient vraiment été très performants, qui avaient trouvé un procédé qu'ils étaient pratiquement les seuls à maîtriser. Et ça, moi je pensais que ça les abritait pendant un bon bout de temps, avec tout de même une menace à terme, parce que les alternateurs sur les voitures, ça disparaîtra un jour. Bon, mais enfin, c'était pas encore tout de suite. Et là, apparemment, ils ont pas su le valoriser, quoi, si vous voulez. Je sais bien, c'est toujours très facile à dire, hein. Mais il faut être capable de résister en face de vous à ces gens qui sont évidemment beaucoup plus puissants, mais qui ont quand même besoin de vous, et leur dire, si vous voulez nos pièces, il faut les payer au vrai prix. C'est tout.
Alors, ces gens comme Valeo, par exemple, c'est une nouvelle forme d'entreprise, non ?
Valeo, vous voulez dire ?
Oui. C'est plus tellement des industriels.
Ah, c'est-à-dire que... Oui, on peut admettre que dans beaucoup de ces grandes entreprises, maintenant, derrière, ce sont des financiers. Oui, ça d'accord. C'est vrai. Je ne sais pas si on peut dire ça exactement de Valeo, mais il y a de plus en plus d'entreprises industrielles qui sont maintenant gérées par des financiers. Et c'est vrai que les financiers attendent des retours rapides sur investissement, font des ratios entre les résultats et les capitaux engagés, où on veut tant minimum, sinon c'est pas valable. Et ça, c'est assez redoutable. Vous voyez bien, quand une entreprise est vraiment dirigée par des industriels, par des ingénieurs, par des gens du terrain, elle ne raisonne pas de la même manière que quand elle est purement dirigée par des financiers qui n'ont effectivement que, j'allais dire, qu'un mot à la bouche, c'est le cours de la bourse. Hein, et qui se disent comment est le cours de mon entreprise ce matin et comment je vais faire pour faire remonter ça. Et il est certain qu'ils n'ont pas la même vision du métier, à mon avis. Moi, je vois ça dans un tout autre domaine. Je fais une petite dérive. Là, ici, nous achetons du zinc. Le zinc, il est coté à la bourse de Londres, qu'on appelle le LME. Et les fonds financiers viennent acheter et revendre du zinc, pas physiquement, virtuellement, parce qu'il y a un intérêt à tout d'un coup faire du profit là-dessus. Et ils ont complètement changé le cours de ces matières premières, de ces matières non ferreuses en particulier, uniquement parce qu'ils investissent des capitaux énormes et que d'un seul coup, ils font monter ou baisser le cours comme ils veulent. Ça, c'est plus ce qu'on appelle les fondamentaux, si vous voulez. Hein. C'est même plus tout à fait la loi de l'offre et de la demande. C'est carrément en plus, on injecte des capitaux parce qu'on va faire monter et on va prendre son bénéfice.
C'est effrayant.
Oui, c'est un peu effrayant. Il faut vivre avec, hein, on y arrive, mais c'est un peu effrayant. Je suis d'accord avec vous. Mais comment changer ça?
Vous allez devenir anticapitaliste, ça continue.
Ne me faites pas dire ça. Mais moi, je suis pour le capitaliste familial. Ça, c'est vrai. J'ai toujours été capitaliste pour le capitalisme familial. Mais c'est donc, il ne faut pas me faire dire ça. Mais incontestablement, cet afflux de capitaux colossaux qui vient comme ça sur des métiers classiques, ça a un côté inquiétant. Je ne peux pas dire le contraire.
Alors, il y a une scène très éclairante, c'est celle avec ce président du MEDEF, le président du MEDEF Ardennes.
Oui, François de Saint-Gilles.
François de Saint-Gilles, qui explique en un plan qui doit faire une dizaine de minutes, enfin une scène qui fait une dizaine de minutes, je crois, hein, c'est ça, non?
Oui, à peu près.
Ouais. Il explique tout.
Oui.
Ce gars explique absolument tout, la mondialisation, les limites de tout ça.
Oui, avec une honnêteté et une lucidité que je salue. Ça ne doit pas être très facile pour lui de tenir ce discours, mais il est le type même du représentant de ce patronat qui est fait d'ingénieurs, de gens qui ont créé des entreprises à partir de savoir-faire, de technologies qu'ils ont inventées parfois, et qui se trouvent tout d'un coup à avoir affaire à des donneurs d'ordre qui, eux, sont dirigés par des financiers, des usines du type Valeo, par exemple, hein, qui appartiennent à des financiers. Par exemple, pour Valeo, en partie au baron Seyer, Wendel Investissement, des gens comme ça, qui, d'après, c'est pas moi qui le dis là, hein, c'est Monsieur de Saint-Gilles, président du MEDEF Ardennes, qui le dit, des gens qui n'ont qu'une idée, c'est le cours de la bourse. Voilà. Alors que les ingénieurs, eux, leur idée, c'est de faire marcher leurs usines, de fournir du travail, et ils sont pas obsédés par des profits immédiats et énormes, hein, alors que ces financiers-là, c'est beaucoup de profits, et parce que les usines qu'on ferme aujourd'hui, c'est ça qui est terrible, ce sont pas des canards boiteux comme autrefois. Mmh, mmh. Ce sont des usines formidables. Cette usine-là, elle produisait 20% des pôles d'alternateurs pour automobiles du monde. Il y a encore 2 ou 3 ans. C'est pas n'importe quoi. Elle avait inventé un procédé unique au monde. Et c'est ces ingénieurs qui l'avaient mis au point avec les ouvriers.
Et on voit un des ingénieurs dans le film, un gars qui est à la retraite maintenant, ouais, dans son petit atelier avec ses pendules.
C'est genre un savant cosinus.
C'est ça, il bricole des pendules, il répare, etc. Il est formidable, parce qu'il parle au présent. Hein.
Ouais.
Il parle au présent, il faut faire ça, parce que quand une pièce arrive là, il faut là, s'y prendre de telle et telle façon. C'est-à-dire qu'on voit tout l'attachement au savoir-faire, l'attachement à la... pas seulement à la boîte, mais à la fabrication, il y a des gars à un moment, dans la boîte qui marche encore, il y a une petite unité, hein, une entreprise qui marche toujours.
Mais une petite forge.
C'est ça, une petite forge. On voit le travail invraisemblable, c'est magnifiquement filmé, ça, la pesanteur du boulot. Mais les gars disent, oui, mais c'est des pièces qui vont sur le TGV, alors ça flotte un petit peu, on est utile, quoi, on a l'impression d'être utile.
Mais il dit très précisément, quand on voit rouler le TGV qui depuis peu passe à Charleville-Mézières, tout près de Nouzonville, bah on est fier parce que la bielle, c'est nous qui l'avons faite.
C'est ça, ouais.
Bah, et peut-être que sans nous, il roulerait pas, quoi. Il y a cette fierté, quoi, de se sentir utile à la société. C'est quand même très dur, non ?
C'est dur.
Quand c'est des gros lopins.
Même des petites. Quand ça ne va pas.
Alors, 53 ans, ça commence à le. Fléchir les bras.
Ouais. Parce que là, vous avez des pièces qui font jusqu'à 40, 45 kilos.
Ouais. 50. Surtout nous, on travaille sur le plus gros pilon, hein, donc on fait beaucoup de grosses pièces, hein, on ne fait pas beaucoup de petites pièces. C'est pas des grosses séries, l'avantage qu'on a, c'est pas des grosses séries, donc après on a le montage, on peut dire qu'on a un temps de retour un petit peu entre chaque commande. Mais vous savez, quand vous avez 50 kilos au bout d'une tenaille, vous les portez. Hein. Nous, c'est surtout les problèmes de dos. Bon, ben là, il n'y a pas longtemps, j'ai débloqué une semaine. Bon, ils sont venus me voir à la maison, hein, parce qu'on est des copains, on se voit. Hein. Et je dormais par terre à plat.
Hein. À quatre pattes.
Je marchais à quatre pattes. Hein. Impossible de bouger, piqûre tous les jours. Il arrive des moments où ça bloque.
Et puis là, ça repart.
C'est bon, ben, on fait une série de piqûres et puis c'est reparti. Hein. On est reparti. On ne prend même pas la totalité des arrêts de travail qu'ils nous donnent parce que vous voyez, c'est malgré tout, on a la conscience quand même, on revient avant, si on peut revenir avant, on revient avant, on ne fera jamais pour. Bon, c'est qu'on fait des pièces pour le TGV ou pour ci ou pour ça, ben, c'est une fierté en fin de compte parce qu'on se dit, tiens, le TGV roule un peu grâce à nous.
On se sent utile.
Oui, on se sent utile et puis voilà, on ne fait pas tout le temps pareil, c'est varié, c'est. C'est un plaisir, quoi.
Et avec le patron, comment ça se passe?
Ben, le patron, moi, je vous dirais franchement, si on a encore la chance de faire ce travail-là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce que l'usine, il ne serait pas là, l'usine serait fermée depuis longtemps. Moi, je pense, c'est mon idée à moi, bon, ben, les autres pensent sûrement pareil que moi, mais il ne serait pas là... C'est quelqu'un qui...
Il s'investit en plus.
C'est pas peur de sa dernière
main. Il s'investit, il vient quand il manque...
S'il manque une personne, il n'hésitera pas à venir vous donner un coup de main.
Il viendra pour travailler avec nous.
Tout ce que vous faites, il sait le faire.
Tout.
Dans la vallée, évidemment, c'est quand les usines s'arrêtent, quand il n'y a plus de bruit. Et ce bruit, c'est la mort, c'est la fin. C'est la fin de l'activité, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une culture. Sauf que ben, la vie continue, les enfants sont là, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ce qui se passe dans cette vallée, gagnée par le silence, cette vallée de Nouzonville, dans les Ardennes, eh ben ça s'est produit et ça continue de se produire un peu partout en France. De là l'intérêt du film de Marcel Tria, que vous pourrez voir sur France 2 jeudi 4 à 23h. Eh bien, il faudra attendre, mais je pense que c'est un très beau travail, tout à fait exemplaire. D'autant plus, encore une fois, rappelons-le, qu'il y a l'appui des sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot qui ont aidé Marcel Tria à dépeindre judicieusement le monde des patrons qui sont mêlés dans cette affaire et on l'a entendu de ce responsable local du MEDEF. On continue. Qu'est-ce que vous avez appris, les Pinson-Charlot, là, en travaillant sur ce film et en suivant le travail de Tria?
Ce qu'on a appris déjà en retournant sur le terrain,
vous êtes là pour apprendre et nous faire apprendre après.
C'est que depuis 25 ans, la situation s'est aggravée. Il y a maintenant quelque chose comme 22% de chômeurs à Nouzonville. Ça représente 500 chômeurs. Je me souviens que quand j'avais commencé à y travailler, la mairie tenait un cahier pour les aides aux familles des chômeurs. Il y avait 5 chômeurs. Ils sont 500 aujourd'hui. Donc, sur une ville de 7 000 habitants, vous voyez un peu situation.
Près de 25% de chômeurs et 33% de précaires.
C'est ça. Alors, il y a une chose qu'on comprend bien, enfin, on y insiste bien dans ce film, c'est que c'est nous qui payons tout ça. Enfin, c'est la solidarité nationale, c'est sur nos impôts que tout ça est payé. Enfin, c'est-à-dire que l'économie financiarisée détruit ces emplois, la responsabilité quand même de la destruction de ces emplois, de ce monde et de cette culture. Mais finalement, on l'oublie trop souvent. C'est pas assez souligné, mais là, c'est très clair dans le film. Les déficits sont publics.
Ben oui, là, il faut rappeler quand même qu'il y a une nouvelle sorte de patron aussi qui arrive dans le paysage. C'est les patrons voyous. C'est les pillards, quoi. Hein. Et là, à Nouzonville, dans cette petite ville de 7000 habitants, il y a quand même deux exemples en 10 ans. Il y a une équipe italienne qui rachète une des plus grosses usines qui s'appelait Tome Kronbach, qui est aujourd'hui une friche épouvantable, hein, pratiquement au milieu de la ville, quoi, à l'entrée de la ville. Bon, ben, ces gens-là, ils sont arrivés, ils ont acheté cette usine 65 000 francs et ils l'ont pillée. Ils l'ont pillé. Voilà, il y a un ancien ouvrier de cette usine qui dit, ils nous ont tout pris, quoi. Y compris la dignité, ils ont tout pris. Ce sont des pillards. Et 10 ans plus tard, l'autre grosse usine, Tome Génois, est en difficulté, arrive une équipe américaine. Même genre. Alors eux, ça a duré 2 ans. C'est assez rapide. Ils s'installent. Alors, ils prennent les savoir-faire, ils ont un petit groupe aux États-Unis, les savoir-faire, sans doute, sont partis là-bas, et ils ont, aspiré tous les actifs de l'entreprise. C'est-à-dire que cette entreprise possédait, par exemple, un immeuble à Paris, des maisons sur place, tout ça a été vendu, ça a rapporté plus un million et demi d'euros, je crois, enfin, on sait pas trop. Il faut faire les comptes, maintenant. Et tout ça, au lieu de venir renforcer les finances de la société qui était en difficulté, c'est parti aux États-Unis directement dans un montage économique très compliqué, une succession d'entreprises qui sont emboîtées les unes dans les autres, auxquelles personne ne comprend rien. Et cet argent a disparu, c'est vraiment prends l'oseille et tire-toi. Et au bout de 2 ans, ils disparaissent. Ils foutent le camp aux États-Unis. Et il y a soi-disant une instruction en cours. Mais bon, personne ne compte vraiment qu'on puisse les atteindre.
Les salariés n'ont pas le droit de déposer plainte pour abus de biens sociaux. Et puis, ça va pas s'arranger. Puisque lors du dernier congrès du MEDEF, le président de la République a annoncé une nouvelle dépénalisation du droit des affaires. Alors déjà, vous vous rendez compte que les salariés peuvent se faire piller leur entreprise et n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité de porter plainte. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très pathétique dans ce film, parce que les ouvriers sont désemparés, impuissants.
Alors qui paye ? Vous posiez la question, c'est effectivement le fond de la question. Ben, dans le cas présent, ces salariés qui ne se battent même plus pour leur emploi, ils savent que c'est foutu, quoi. Ils se battent pour 30 000 euros. Ils vont finir par en obtenir 25 000. 10 000 payés par le conseil régional, 10 000 payés par le conseil général, et pour ceux qui trouvent un emploi, 5 000 en plus payés par l'État. Donc, par les contribuables, de A jusqu'à Z. Il y a combien de personnes à nourrir ?
5 personnes. 2 adultes et 3 enfants.
Et votre mari et vos 3 enfants ?
Oui.
Quel âge ?
12, 9 ans et 5 ans.
Votre mari ne travaille pas ?
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il travaillait chez Citroën, il ne fait pas à timer. Et comment il n'y a plus de travail, ils ont dit tout est pas. Et comme il n'avait pas fait d'heure, on ne touche pas le chômage.
Les acéliques ?
Non.
Alors vous touchez quoi ?
Les allocations.
Les RMI ?
Les RMI, on ne le touche plus non plus.
Ça fait combien par mois ?
Moi, je touche en ce moment 434 euros par mois.
Pour faire vivre 5 personnes ?
Ouais.
Comment vous faites ?
Bon, c'est bruit. Moi, c'est mon cœur et les restes du cœur pour me dépanner.
Et les restes du cœur, c'est une fois par semaine ?
Oui.
Le reste du temps ?
Moi, c'est bruit. On demande à droite, à gauche, à maman, à papa, à la grand-mère, au grand-père. On se débrouille, on demande. On va voir la mairie pour qu'on nous fasse des bons, qu'on a le droit.
C'est un moment sympa quand on vient ici.
Oui, ça pompe, ça part, détente, ça change les idées, on pense à autre chose.
Alors là, on est à Nouzonville, mais cette histoire-là, vous auriez pu la filmer dans combien d'endroits en France? Parce que ce même scénario s'est reproduit, est en train de se reproduire partout. Et ça dure depuis une vingtaine d'années.
Oui, moi, ce qui m'a intéressé là, c'est un petit bout de France qui ressemble à une espèce d'allégorie de ce qui est en train d'arriver à l'industrie française, quoi. Alors bon, évidemment, c'est pas exhaustif, ça représente pas complètement à tout point de vue la situation industrielle en France. Il y a des régions où ça se passe mieux, etc. Il y a des régions qui sont plus sinistrées que d'autres. Il y a des secteurs économiques sacrifiés, par exemple le textile, tout ce qui touche à l'acier. Bon, mais c'est quand même assez significatif, malheureusement, de la tendance, quoi.
Alors, le résultat, il y a eu une projection. Est-ce que tous ceux qu'on voit dans le film ont vu le film?
La plupart. Oui, la plupart l'ont vu. Une projection il y a quelques jours.
Oui.
À laquelle vous étiez.
Il y a eu une projection à Nouzonville, à la salle des fêtes municipales, où il y avait le maire, les ouvriers, les délégués syndicaux, bien entendu, et les élus, les patrons.
Les patrons.
Le président du MEDEF.
Le président du MEDEF, Ardenne. Monsieur Dury, qui s'est fait, finalement, lui aussi, évincé de l'entreprise,
Quand
les Américains sont arrivés. Et la discussion a été très intéressante, avec une certaine tension quand même, hein, surtout avec le repreneur actuel, mais aussi avec cette mise en évidence que, dans l'intervention par exemple du président du MEDEF, il y avait une réelle prise de conscience d'une partie du patronat de ce qui est en train de se passer, et de c'est inacceptable que le capital financier, de cette manière, raye des entreprises viables de la carte industrielle.
Et la prise du pouvoir par les financiers du monde industriel.
Marcel Trias, c'est pas votre premier film, enfin je pense que au moment où on montre ça aux gens, ça doit faire drôle, non? On est un peu inquiet, non?
Très inquiet. Très très inquiet. Très inquiet.
Et avec votre chaîne, avec France 2, ça se passe bien?
Alors écoutez,
ça se passe bien, ça se passe un petit peu tard quand même, hein. C'est à 22h56 sur France 2 ce jeudi 4 octobre.
Bah écoutez, bon, moi je suis un peu un ancien de la maison, hein. J'ai pris ma retraite il y a un an, mais bon, je connais un peu tout le monde et il y a une confiance, quoi, si vous voulez. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que seul le service public maintenant pratiquement permet de fabriquer des documentaires. On n'en fabrique plus du tout à TF1, à M6 et de moins en moins à Canal+, alors qu'il y a il s'en est fabriqué de très très beaux à Canal+, mais c'est plus du tout à la mode. Donc ce sont les chaînes publiques qui font des documentaires, qui permettent d'en faire Arte, France 3, France 2, France 5. Et il faut se battre pour que ça continue, quoi, hein, que le service public, celui-là comme d'autres services publics, il faut les défendre à tout prix, quoi. Sinon la télévision fera plus son boulot, parce qu'une télévision qui fait plus de
documentaires... À chaque fois que vous dites télévision, on peut entendre radio, hein, aussi.
Ah bon?
On peut entendre radio aussi, c'est exactement la même chose. Oui, ici. Le film finit sur...
Et je dois le dire, je l'ai fait en toute liberté. Et ça, je remercie le service public.
Le film finit avec une note d'espoir, enfin si on peut dire, c'est un petit club de golf, de boxe, pas de golf, un petit club de boxe avec des jeunes qui en volent, quoi. C'est ça l'idée pour pas que ça finisse trop d'une façon. C'était ça l'idée, non?
Oui, l'idée, oui, c'est un peu ça. Moi, j'ai adoré ces jeunes prolos, quoi. C'est les enfants des ouvriers qu'on a montrés jusque là. Il y a beaucoup d'immigrés parmi ces ouvriers. Ils se battent pour pas céder au désespoir, quoi. Hein. Ils réagissent, etc. Et cet animateur là qui dirige le club de boxe est un type formidable. Il dit, il faut les reconnaître. Il dit, en France, si on n'a pas Bac+5, on n'est pas reconnu. Il faut les reconnaître, etc. Et lui, il fait un tas de trucs avec eux. Il y en a qui l'a poussé à faire du théâtre, par exemple. Bon, j'ai pas pu tout garder parce que ce personnage est vraiment bouillonnant. Et puis bon, il y a peut-être une petite idée qui m'a poussé à installer cette séquence à la fin du film, c'est que après ce qu'on a vu jusque-là, on a des envies de coups de poing, quoi.
Merci. Monique, j'ai rajouté quelque chose.
Non, c'est
le mot coup de poing. Qui...
Non, c'est parce que je trouve que la conclusion du film de Marcel est en parfaite homologie avec ce qui, pour moi, est le fil directeur. C'est cette idée de la reconnaissance. Au fond, être bien payé, c'est pas mal. Mais dans ce film, on voit des ouvriers qui sont pas bien payés, mais qui aiment leur travail et qui ont de la reconnaissance. Et donc, cette fin avec la boxe, c'est un jeune qui a de la reconnaissance de son professeur, et au fond c'est ça la lueur d'espoir d'un film qui est quand même assez triste sur le fond,
assez
c'est
sombre,
que,
oui.
Voilà, c'est que la reconnaissance, eh ben c'est un moteur humain très important.
On nous montre comment développer des pensées positives du genre t'es pas si nul que ça
et vous y arrivez.
Aujourd'hui vers 10h, Verdi ready blafard. Rendez-vous chez coiffeur, pas être en retard. Chou-fleur ou lard? Lard ou chou-fleur? Charcutier à 16h, pas être en retard. Avec ou sans fleurs, et sera un pétard. Chou-fleur ou lard? Lard ou chou-fleur? Il va couper, j'ai peur. Mes cheveux en pétard. Oh là là, ma tête, quel malheur! Ma tête, quel hachoir! Dans les selles, avec les fleurs? Des dans les fleurs ou des dans les lards? Aujourd'hui vers 10h, Verdi ready cafard. Quel gueulard ce coiffeur, quel malheur ces gros lards. Quel gueulard ce coiffeur, quel malheur ce gros lard.
Machin chose, l'art au chou-fleur. Je suis sûr que vous allez demander le titre du chef-d'œuvre qu'on vient d'entendre. C'est Machin chose, l'art au chou-fleur. Merci à tous. Merci à Marcel Tria, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Silence dans la vallée, c'est jeudi 4 octobre, on le répète encore, sur France 2 à 23h. Et les autres films de Marcel Tria seront diffusés dans les jours prochains. À voir, donc, alors, voilà les dates. Entre le 18 et 25 octobre sur France 2, 300 jours de colère et les prolos. Ne pas oublier le bouquin de Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, Ghetto du Gotha, aux éditions du Seuil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis. Olivier Riotor et Yann Bouillot étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouquet et Koyen Guyen ont réalisé cette émission et Charlotte Berry nous assiste heureusement. Et Christophe Imbert, c'est lui qui s'occupe du répondeur qui attend vos messages, vos coups de gueule et coups de cœur au 01 56 40 37 37.